Bonjour Xavier, vous voulez nous parler ce matin de l'internet des escargots ?
Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Depuis des mois, Yves Citon, qui est professeur de littérature et grand connaisseur du numérique, me dit qu'il doit m'envoyer un article sur l'internet des escargots. Vous imaginez un peu la fébrilité de mon attente. Un internet des escargots, mais que cela peut-il bien être ?
Ils ont deux antennes, les escargots.
Ah, j'avais pas pensé à ça, mais je pensais à un internet qui connecterait des escargots, ou alors un internet qui irait à la vitesse de l'escargot, ou encore un internet pour les escargots. Vous imaginez des sites de rencontres hermaphrodites, ou alors des sites coquins célébrant la puissance érotique de la bave.
Et, voilà. Et ensuite, je vais encore dire Bref. Que vous êtes un peu obsédé, et vous allez me dire que je fais un portrait extrêmement
vous-même. Je ne vois pas en quoi rêver de copulation d'escargots et être obsédé. Bref.
Continuez.
Jusqu'à ce qu'enfin, je reçoive cet article signé Justin E. H. Smith, professeur d'histoire et de philosophie des sciences à Paris 7, formé en Allemagne et aux États-Unis, auteur de plusieurs ouvrages et contributeur régulier de publications prestigieuses, parmi lesquelles le Cabinet Magazine, dont est tiré cet article en effet passionnant, The Internet of Snails, l'Internet des escargots. Alors Justin H. Smith commence par évoquer un article paru dans un journal français, La Presse, en 1850. Dans ce journal, un certain Jules Alix décrivait l'invention d'un système permettant la communication entre les esprits, un système de communication sans fil qui utiliserait des escargots. Alix s'appuie sur l'observation que lorsqu'ils copulent, les escargots relâchent une sorte de fluide presque invisible qui les maintient en lien. Un fluide qu'on pourrait étendre à l'infini sans le briser. L'idée d'Alix est la suivante. Vous faites copuler autant de couples d'escargots qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Vous séparez les couples, vous les éloignez le plus possible. Et il suffit d'activer vos escargots d'un côté pour que ceux de votre interlocuteur bougent de l'autre en réaction, indiquant des lettres qui forment des mots. Alix voyait là un système de communication à distance et simultané entre tous les êtres humains, un internet des escargots. Et comme on peut trouver des escargots de toute taille et de toute petite taille, et que les escargots n'ont pas besoin d'électricité, on pouvait même imaginer des machines que chacun porterait sur soi. Alix rêvait ainsi que chacun pourrait recevoir du courrier et lire des journaux provenant du monde entier grâce à sa petite boîte portative d'escargots. De cette invention, qui n'eut pas de suite pour des raisons qu'on comprend aisément, Justin Smith tire une leçon très intéressante. Il y voit une étape dans la longue histoire de l'Internet, ce qu'il appelle l'histoire profonde de l'Internet, et qui pour lui est l'histoire de toute la biologie. Trouver ce qui relie les êtres vivants. Et l'auteur de citer diverses expériences qui, depuis le XVIIe siècle, ont postulé une communication à distance qui passerait par le vivant. C'était avant que la biologie ne se distingue des sciences de la nature, à un moment où l'on pensait que le cosmos était modelé à partir du corps animal et que l'on résoudrait les problèmes de la physique par l'étude de la physiologie et non l'inverse. Une idée que l'on trouve chez les stoïciens, par exemple, qui voyaient le monde comme un gigantesque animal. Mais se trompait-on complètement en imaginant ces étranges circulations ? La question, au fond, c'est de savoir si nous avons créé Internet à partir de rien ou s'il n'est qu'une excroissance de ce qui était déjà là dans la nature. L'auteur penche évidemment pour la seconde hypothèse et il s'appuie sur les travaux les plus récents qui montrent qu'il y a, par exemple, de la pensée dans une forêt, entre les arbres ou dans un réseau de champignons. Pas de la pensée au sens d'une communication abstraite entre des esprits qui manient des symboles, mais entre des êtres vivants échangeant d'autres signes. Une pensée non humaine donc, mais une pensée. N'y a-t-il pas dans Internet quelque chose de cet ordre quand, par exemple, je vois que mon tweet est lu et que je ne ressens pas quelque chose comme l'appartenance à un ensemble plus vaste en frissonnant à l'idée de cette lecture ? L'idée de Smith est qu'Internet aurait tout à gagner à être étudié comme une branche de l'histoire naturelle, à être inscrit dans une généalogie qui ne soit pas uniquement celle de la technique. Internet n'est pas un gadget de plus. Car il n'est pas un gadget du tout. Il s'inscrit dans la longue histoire de la communication qui, avant le livre, avant l'écriture, a toujours porté en elle quelque chose de mystérieux, au point d'être toujours investi par le divin. Extraire un fragment de sa vie, l'écrire, le poster sans savoir pour qui ou pourquoi sur les réseaux, c'est l'envoyer rejoindre le cosmos. Internet est un peu comme un aqueduc, précise Smith. Il n'a pas inventé les flux qui circulent entre nous, il les canalise juste. Ce qui circule entre nous, c'est du désir humain, de la haine humaine qui ne sont en retour que l'expression microcosmique des lois générales qui, selon Héraclite, gouvernent la nature. Ce qui explique qu'Internet soit le lieu de la pornographie et qu'il est parti lié depuis sa création avec la guerre et la haine. Il les a capter.
Et voilà.
Et pour terminer et vous inviter à la méditation pendant le reste de votre vie, Guillaume Herner, je vous cite la magnifique conclusion de cet article. Internet, qui a toujours existé conceptuellement comme une possibilité, est, de la même manière que le destin humain, le désir, les champignons ou le mouvement des escargots, l'âme incarnée de l'animal.